Vous êtes toujours à l'écoute de Bonheur et vice-versa. Il est 11h31 et dans la deuxième demi-heure de l'émission, Josiane, on se garde toujours un peu. Hein? On invite des gens qui nous inspirent, des gens qui changent des choses dans leur communauté, qui ont un impact auprès des gens qui les entourent. On a toujours comme deux volets, un volet entrevue professionnelle, un volet entrevue carrière inspirante. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre invité, en fait, rassemble ces deux volets-là. Parce qu'à travers sa carrière de professeur, chercheur à l'Université Laval, il travaille fort aussi pour faire connaître le monde de l'orientation et de propulser la profession à un autre niveau. On reçoit aujourd'hui M. Louis Cournoyer en entrevue.
Un brin de jasette, des découvertes et vice-versa. Voici notre invité bonheur de la semaine.
Alors, notre invité bonheur de la semaine, cette semaine, est nul autre que M. Louis Cournoyer, qui est professeur-chercheur à l'UQAM. Il a voyagé aujourd'hui, il a pris le train pour venir nous voir. Bonjour, Louis.
Bonjour, bonjour.
On est très content de te recevoir aujourd'hui.
Oui.
Surtout de te recevoir en studio. C'est gentil d'avoir décidé de te déplacer pour venir nous voir en studio.
Ben, je voulais découvrir ça, cette émission-là.
Ben oui, t'es comme
depuis 2 ans.
T'es comme un de nos fans là, sur Facebook.
C'est ça.
Ouais, mais
fait
moi, je suis impressionné ce matin. Là.
Ah oui?
Ah oui, vraiment.
M. Cournoyer t'impressionne?
Oui, parce que je suis costaud.
Ben aussi, ben ça, je suis habituée, là, personnellement, j'en ai un chez nous. Mais non, c'est votre parcours, moi, qui m'impressionne. Okay. J'avais jamais vu et parlé avec vous, mais je vous connais depuis que je fais mes études, parce que j'ai l'impression que je vous vois partout.
Ben oui, peut-être te dire aux auditeurs, justement, tous ces chapeaux-là que M. Cournoyer a sur sa tablette professionnelle, de son garde-robe professionnel, conseiller d'orientation présentement, professeur-chercheur en counseling et développement de carrière à l'UQAM, directeur des programmes de deuxième cycle.
Premier cycle, premier cycle. 1er juin. Et ensuite, deuxième cycle.
On transfère
cycle.
Deuxième cycle. Directeur de la clinique carrière et superviseur clinique.
Ouais.
Puis à travers ça, j'imagine, t'as une vie, des enfants, tout ça.
J'ai un enfant de 5 ans que j'adore.
Alors,
je le salue.
C'est impressionnant, justement, d'avoir tous ces chapeaux-là professionnels. Comment tu fais pour conjuguer, justement, avec tout ça?
Bien, au départ, c'est un intérêt, c'est une passion. Tu parlais tout à l'heure des chapeaux, de ces choses-là. Moi, ça a beaucoup commencé autour des années 2010, quand que j'ai lancé... Ça a l'air commun aujourd'hui, voir des pages web, des blogs, des capsules, mais il n'y avait rien à ce moment-là. Et moi, j'étais nouveau prof, puis à ce moment-là, je m'étais dit... Je lisais des travaux d'étudiants, je lisais des articles, puis là, je me disais, je vais mettre ça de côté, puis je me suis dit, c'est bien bête. Un article scientifique que j'avais lu, je pourrais, avec mon expérience professionnelle, le twister en 20 minutes sous forme de chronique professionnelle, puis ça serait utile aux gens. Les travaux étudiants, j'ai décidé que j'arrêtais d'appeler ça des travaux étudiants, je vais appeler ça des productions étudiantes, parce que vous le vivez. Un étudiant, ça a le temps de penser. Un professionnel, ça n'a pas le temps. Donc, ça doit...
L'étudiant, ce n'est pas toujours le cas, mais, ouais, mais non, mais je comprends ce que
ça
tu veux dire.
Ça sert de part d'autre. Fait que je me suis mis à diffuser comme ça, puis j'étais tout seul à ce moment-là, pas mal. Fait que ça a levé comme ça. Oui.
Et justement, quand tu parles de ces travaux-là d'étudiants que tu as décidé de réutiliser, moi, il y avait quelque chose que j'avais noté, parce que j'ai un livre chez moi qui a été produit par toi. Ben, enfin, un livre, plus un recueil, qui est le guide de stratégie d'intervention orientante. Il y a 400 pages, ce guide-là. Moi, j'ai la 3e édition. Puis, moi, j'ai pas calculé, mais il y a au moins une cinquantaine de stratégies 108. D'intervention. Comment?
108.
108, mon Dieu, OK, il y en a plus que 50. Et c'est divisé par les trois phases, en fait, du processus d'orientation qu'on apprend à l'université. Puis, des fois, on est tanné de se le faire dire, mais ça a bien de l'air que ça a son importance. Donc, exploration, compréhension, action. Et il y a des stratégies dans chacune des phases. Et c'est vraiment des outils concrets, en fait, pour la pratique. Ce que moi, on m'a jamais donné dans ma formation ici là, à l'Université Laval. Désolé, mais c'est vrai pareil. Là. Mm-hmm. Ouais. Quand j'ai eu ce guide entre les mains, je me suis dit, ben voyons donc, t'étais où, toi?
Madame! Oui, puis ce guide-là, ça fait partie de l'idée des productions étudiantes. Donc, autrement dit, je suis arrivé dans un cours de counseling, je me suis dit, à chaque année, à ce moment-là, j'allais acheter des livres de counseling et de psychothérapie. Moi, la finalité, c'est toujours l'orientation. Donc, je donnais ça aux étudiants. Ils se mettaient tout seuls ou en équipe de trois. Vous devez me résumer le livre. Puis là, ça s'en allait sur ce orientation. C'était des recensions appliquées. Ils devaient lire le résumé du livre puis voir comment ça pourrait servir en intervention. et par la suite devait proposer des stratégies d'intervention orientantes basées là-dessus. Donc, autrement dit, c'était à la fois original, créatif, mais appuyé.
Et ça devait aussi être motivant pour les étudiants. Oui. Ils avaient l'impression d'avoir quelque chose de concret dans leurs mains, qui avait vraiment produit quelque chose. Ce qui est des fois qui est dur quand on est étudiant, on n'a pas l'impression que ce qu'on fait a une importance, mm-hmm. entre parenthèses.
Plus que ça encore, Maxime, j'avais le désir, souvent quand on arrive sur le marché du travail, comme nouveau diplômé, on n'a pas d'expérience, j'avais le désir qu'ils puissent mettre des lignes de publication professionnelles. Et j'ai vécu plusieurs situations où l'étudiant se présentait dans un milieu de stage, puis il voyait ça, puis la personne disait « Ah, c'est toi qui as fait ça, je l'avais lu à l'époque! » Donc déjà, ça créait une entrée et... Je pourrais parler de plein d'autres projets, mais il y avait toujours cette intention-là, moi, de faciliter l'insertion professionnelle, de faire que les étudiants se sentent plus en confiance une fois diplômés.
Puis j'imagine aussi pour que les étudiants qui désiraient avoir une carrière peut-être plus scientifique, ça leur donnait déjà un peu le goût à l'écriture, le goût à la publication, l'impression qu'ils ont publié quelque chose, justement.
Tout à fait. Puis en même temps, moi, je jouais sur les deux tableaux, c'est-à-dire le côté, oui, s'il y a un intérêt scientifique, mais sinon, quand même, de déjà développer une niche, tu sais, au travers. Ça paraît pas, mais cette petite recension-là, ils choisissaient leur livre, ils choisissaient leur sujet. Donc, par défaut, ils étaient déjà appelés à se spécialiser à ce niveau-là. J'ai vu des gens développer des choses en gestalt, en art-thérapie. Je suis certain que ça a servi.
Si jamais on veut se procurer ce livre-là, parce que moi, je l'ai eu comme par défaut, si on veut se le procurer de façon un peu plus legit, comment on fait?
Bien, legitement parlant, oui. Faut m'écrire. Ah, donc, okay. Cournoyer.louis@ucam.ca. Donc, si ça donne que je suis devant mon ordinateur, il va revenir assez vite, la
Super.
Réponse.
Oui. Donc, oui, c'est vrai, tu es très réactif sur, justement, ouais. les réseaux sociaux aussi. Tu es un gars qui est très actif sur les réseaux sociaux. Ça fait partie un peu de ta pratique professionnelle?
Oui. Puis c'est drôle, tantôt, quand tu disais « je suis partout », ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, « tu es partout ». Mais là, je parle à des plus jeunes, ils vont comprendre, mais c'est facile à être partout rapidement quand on a accès à des pages Facebook, à des groupes LinkedIn. Donc, et souvent, de même site WordPress, on peut pitcher
mais
ça.
Tu as tellement raison, parce que souvent, on va me dire ça, tu sais, Max, tu es partout, il me semble que tu fais plein d'affaires. OK, je fais beaucoup de choses, moi aussi, mais souvent, tu sais, je suis chez nous, à la maison, tu sais, je travaille beaucoup de la maison, mais je peux diffuser mon travail sur les réseaux sociaux. Fait que c'est vrai que ça aussi, c'est comme un bonus des réseaux sociaux. Et j'imagine qu'il peut aussi avoir quand même un renvers, parce qu'on a comme toujours l'impression qu'on travaille. On peut toujours travailler avec les réseaux sociaux.
Oui, ça c'est un enjeu, il faut apprendre à couper là-dessus, mais c'est la responsabilité de chacun, je crois, de segmenter
d'être capable
son
de
usage.
Bien segmenter son usage, oui.
Moi, je dirais j'ai un plaisir à communiquer ça, donc ça fait partie de mes intérêts. Je suppose que la personne, j'en ai vu souvent en pratique privée, de se dire, bon, ben faudrait que j'écrive des articles, faudrait... Mais quand ça vient pas de toi, laisse faire, fais le pas, fais d'autres choses, parce que... Ça va pas inspirer.
C'est un peu de l'autocompassion, ça.
Oui.
Ouais.
Hein?
Ouais.
C'est quand même ça, c'est de
ça,
comme t'écouter, puis que si ça marche pas, ben t'es pas obligé de forcer justement
mais
pour faire ça.
C'est tellement vrai, là, ce que tu dis. Parce qu'au début, quand on a parti consultation, Annie et moi, j'ai essayé de suivre le beat d'Annie qui crie, puis à un moment donné, j'ai dit, non, c'est pas pour moi. Moi,
chacun
c'est pas
ses
ça.
Forces.
Ah, non, c'est ça.
Une émission de radio ici, ça en est une preuve. Tu sais, je doute que vous soyez, que ça soit juste, que vous soyez juste dit. On va faire une émission de radio parce qu'il y a un filon. Non. Il y a un intérêt, il y a une drive, il y a une passion. Puis en même temps, c'est un bon filon, ça n'existe pas.
Exactement. Puis on n'aurait pas autant de plaisir, puis ce ne serait pas aussi, je pense, pertinent si on n'aimait pas ça. C'est
exact.
Important. Tu parlais de pratique privée. Tu fais aussi de la pratique privée ou t'en faisais? J'ai trouvé
non,
là, ta page. T'en fais, hein? Parce que là, ta page, c'est Cournoyer, le pire des rosiers, c'est au potentiel.
Exactement.
Bon. On n'entend pas beaucoup parler, par exemple, de cette partie-là de ta carrière, il me semble, sur les réseaux sociaux.
Ça roule bien.
Oui.
La pratique privée à Montréal, je ne sais pas comment elle est à Québec, mais ça roule assez facilement.
Il y a beaucoup de CO en pratique privée dans la région de Montréal.
Oui, énormément. Puis je pense que ça a suivi une vague. Bon, certains pourraient critiquer ce que je vais dire, mais c'est un phénomène pareil. Il y a eu une époque plus jeune que dire on va aller chez le médecin en privé. Bien, voyons donc, je le paye déjà. Mais aujourd'hui, les gens vont en privé. Il y a eu une époque, les écoles privées. Bien non, voyons donc, je paye déjà l'école privée. aujourd'hui, les paye. En orientation, moi, souvent, ce que j'amène aux gens, notamment des parents, c'est, tu sais, une fin de semaine, habiller votre enfant de neuf, là, ça va vous coûter probablement 300-400 pièces. Une couple de, rencontres, de processus, vous pouvez faire avec ça. Et en lien avec ta question de pratique, moi, j'enseigne le counseling, puis j'ai un principe que faut que tu pratiques ce que tu enseignes. Mm-hmm. Et c'est tellement facile, je l'ai vu, si j'arrêtais un an, deux ans, quand tu enseignes, ton rythme, ton feeling, tes anecdotes, c'est important les anecdotes là, pour mobiliser des gens, faire des liens, tu perds le fil. Y a-tu quoi de plus plate là, qu'un professeur qui vous parle de quelque chose que la dernière fois qu'il était en contact avec ça, c'est il y a 30, 40 ans?
Mm-hmm. Non, mais oui, tu sais, je veux dire, c'est clair. Là. Moi, je suis encore étudiant, puis c'est sûr que je peux en témoigner. Mm-hmm. Puis c'est pas pour enlever rien à personne, on n'en aura aucun nom, mais c'est sûr que les professeurs qui ont de la pratique, quand on arrive dans le baccalauréat ou à la maîtrise, c'est eux qui nous gardent sur les bancs d'école, mm-hmm. en fait. C'est mm-hmm. eux qui nous transmettent leur passion. Je me rappelle de M. Alain Dubois, quand je l'ai vu dans ses premiers cours, c'est à cause de lui que j'ai décidé de continuer au deuxième cycle. Puis c'est juste pour un cours qu'il a donné où il nous a parlé de sa pratique. C'est tellement important.
Alain, là, c'est anecdote pertinente et appuyée mm-hmm. tout le temps. On aborde un sujet, il part sur quelque chose, mais tu sais, il y a des gens qui partent puis ça va aller nulle part. Lui, c'est alimenté, c'est appuyé, c'est solide. Donc, c'est vraiment un des meilleurs communicateurs, sinon là, parmi les professeurs qu'on a en orientation, au niveau communication.
On l'aime beaucoup, on l'a reçu en studio. Puis quand on l'a reçu, finalement, on n'a même pas parlé de sa carrière. On a parlé de son rôle de grand-père. Hein?
Ah, c'était tellement le fun.
C'était, ouais, il y avait ouais. quelque chose à dire aussi à ce propos-là. Mm. Et Louis, dans le fond, là, c'est ça. Tu fais un peu de tout ça et en même temps, c'est un peu nouveau que tu sois directeur, en fait, je crois, des programmes en orientation.
Pas vraiment. Bon, je t'explique. Moi, je suis un des rares profs qui a fait un bac, une maîtrise mm-hmm. puis un doctorat en orientation.
OK.
Donc, autrement dit, j'ai fait mon bac, j'ai travaillé comme conseiller en emploi. J'ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé comme conseiller d'orientation. Je travaille toujours comme conseiller d'orientation. Puis dans mon doctorat, bien qu'il n'était pas à Laval, c'était en éducation, mais pose-moi pas des questions sur ce qui se passe en enseignement primaire, préscolaire, je le sais toujours pas. Quoique là, je vais m'y mettre, mon garçon, à 5 ans. Fait que faut que ça m'intéresse un petit peu. Je vais faire un Alain Dubois de moi-même.
Bienvenue dans le club.
Non, c'est ça. Fait que quand je suis arrivé dans les programmes à l'UQAM, tu sais, c'est la même chose à Laval, un peu moins à Sherbrooke, mais il y a toujours une minorité de profs, je parle pas de chargés de cours, de profs qui sont conseillers d'orientation et encore... On peut l'être, mais sans l'avoir pratiqué vraiment. Mm-hmm. Donc, moi, je me suis rapidement... on parlait d'intérêt tout à l'heure. Je me suis rapidement, moi, plus intéressé à vouloir devenir directeur. Je suis devenu directeur des programmes de premier cycle. Je le suis depuis à peu près 10 ans.
Ah, mon Dieu, je suis retard, moi,
c'est
là.
C'est ça. Mais il y a 10 ans, tu étais tout jeune.
Je pense que c'est la nouveauté avec le deuxième cycle qui m'a mêlé un peu. Fait que là, tu vas changer de poste, en fait. Tu t'en vas au deuxième cycle.
C'est ça. J'ai fait le tour. Mm-hmm. En clair, comme n'importe quoi. On rentre dans quelque chose, on veut tout changer. Après, on assiste à la croissance de ce qui a changé. Puis avec le temps, ben, à un moment donné, il faut se pousser dans le derrière pour continuer. On va à la maîtrise.
Et là, tu travailles actuellement sur le développement d'un nouveau cours qui s'appelle le développement personnel et l'épanouissement professionnel.
Oui.
C'est quelque chose qui se passionne beaucoup. Tu m'en as parlé là, quand on a parlé de l'entrevue aujourd'hui. Tu trouvais ça important d'apporter ce sujet-là à notre émission parce qu'il y avait des liens à faire.
Bien, en fait, il y a un lien à faire. C'est sûr qu'il y a un lien à faire avec le bonheur.
Avec le bonheur,
et
oui.
vice-versa par rapport au cours. Mm-hmm. mais effectivement, c'est un nouveau cours qui porte grosso modo sur le développement de la personne, mais dans l'ère actuelle. Donc, aborde les enjeux de résilience, de présence attentive, de bonheur. Mais attention, ça, parce que souvent, le bonheur a mauvaise presse. Ça sonne léger, ça sonne... Il y a quand même possibilité de parler de bien-être. Moi, je parle entre autres de bien-être et de sens. Et j'ajoute orientant pour que ça tombe en orientation. Il y a moyen de parler de ça tout en gardant un côté des forces de contexte, c'est-à-dire le côté ce qui nous englobe, ce qui joue. Entre autres, une petite statistique importante, quand on parle du bien-être chez les individus ou l'accès au bonheur, il faut savoir, tu sais, l'expression qui dit « tous les hommes sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres », souvent on va associer de 40 à 50 les variables bio et sociologique. Donc, autrement dit, c'est pas tout le monde qui a la même facilité.
Et ça, à être heureux?
Non, on part pas tous du même point. Mmh. Bon, sociologiquement, je vous dirais, vous naissez d'une famille, vous avez été abusé, humilié, oui, oui. le kit, oui. partez pas à la même place. Mm. Et biologiquement, et là, je partirai pas sur tout le système nerveux autonome, puis etc., mais on arrive avec un corps au départ. Mm-hmm. On n'arrive pas... Tu sais, quand on parle, par exemple, des troubles d'anxiété, quand on parle d'anxiété, l'anxiété, des fois, on l'a en partant. Là. Mm-hmm. C'est pas quelque chose...
Il y a des choses qui sont génétiques aussi à oui. ce niveau-là.
Exactement. Exactement.
Tu parlais, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu dis le bonheur, des fois, ça n'a pas toujours bonne presse. C'est un peu... Ça peut un peu, être, des fois, être vu comme quétaine. Mm-hmm. Tu sais, on s'est battu beaucoup avec notre émission à cause du nom, justement, de dire non, non, on n'est pas une émission bonbon. On n'est pas une émission qui va juste parler de fla-fla puis de bonheur. Non, non, c'est une émission où justement il y a une pertinence et où le bonheur est pris dans un angle quand même un peu plus scientifique, mm-hmm. un peu plus réfléchi, un peu plus rigoureux. Tu sais, c'est un bonheur au sens large. C'est pas juste la vie est belle, en fait. Mm-hmm.
Tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai pas de raison scientifique que je vais dire, mais ce que j'ai observé chez les praticiens souvent, et même dans le public, c'est qu'on dirait que quand tu arrives avec un mot à concordance plutôt négative ou déficitaire,
ça
souffrance, difficulté, trouble, ça, on dirait que ça vient chercher rapidement les gens parce qu'on dirait qu'ils ont peur ou ils le vivent, puis c'est honteux, puis c'est caché, puis ils veulent s'informer là-dessus. Alors quand tu arrives sur des choses plus positives, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'on...
Ça dérange quasiment.
Bien, on a peur que ça soit trop facile, etc. Puis comme je disais... Les principes, quand les études sur le bonheur, grosso modo, là, ce qu'ils remettent en relief, c'est des affaires qu'on pourrait associer à des théories sur les besoins, l'importance, l'être humain a besoin de relations. Ça, les relations, ça sort toujours, là, mm-hmm. comme le plus important. Des relations investies, nourries, puis ça joue bio, socio, psycho. Se développer dans quelque chose qu'on aime. D'ailleurs, on parle de plus en plus de meaningfulness, pas juste de mindfulness, de meaningfulness, ça pourrait faire l'objet d'une chronique à un moment donné. meaningfulness qui dit, grosso modo, en orientation, que c'est on travaille toujours sur l'importance que la personne s'oriente en fonction de qui elle mm-hmm. est, son identité, l'expression, mais ce qu'on s'est aperçu, c'est pour vraiment avoir un effet, il faut que la personne ait l'impression qu'elle fait quelque chose qui va au-delà d'elle-même. Donc ça ne veut pas dire de faire seulement une carrière de Mère Teresa. On pourrait juste dire, je fais ma job qui rapporte des sous parce que moi, dans la vie, je veux avoir ma famille puis mm-hmm. je veux être présent pour mes enfants. Ça dépasse déjà soi-même. Mais c'est deux volets-là qui sont là.
Il faut que ça fasse du sens, finalement.
Exactement.
Qu'il y ait une cohérence avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous puis nos objectifs de vie.
Oui, puis au-delà de ça, que ça serve quelque chose, que mon existence... Okay. servent à quelque chose, à quelqu'un ou au monde.
Alors, j'imagine que c'est le genre de sujet qui vont être traités dans le cadre de ton nouveau cours. Est-ce que c'est un cours qui va être mis au programme bientôt pour les étudiants de l'UQAM?
Il va être offert en hiver 2020 et j'ai un projet rapidement.
Oui.
J'ai un projet de créer des capsules pour ce cours-là. Donc, c'est un cours qui se donnerait beaucoup en ligne, mais avec présentiel. Et les capsules, je voudrais les rendre disponibles. On a créé un site web pour ça, les rendre disponibles pour tout le monde.
Très bonne idée, parce que s'il y a une chose, des fois, qui me fait de la peine, c'est de voir les programmes des autres universités. On a des très bonnes choses à l'Université Laval, mais il y a aussi des très bonnes choses ailleurs.
Oui.
Des fois, on peut comme pas en profiter, puis ça, on dirait que j'aimerais ça pouvoir en profiter.
Dont les outils.
Dont les outils, justement. Alors, parlant de bonheur, on s'en va écouter une chanson qui te rend heureux au quotidien, Louis.
Oui.
Alors, pourquoi tu as choisi cette chanson? Quelle est-elle?
C'est la chanson, mon Dieu. Là, faut avoir connu ça, mais c'est Frank Sinatra, c'est My Way.
Mais qui ne connaît pas ça?
Ah, je sais pas.
Je pense qu'il y a pas mal de monde qui connaît ça.
Et My Way, ça fait du bien parce que quand t'es dans des périodes où tu doutes plus de toi, où t'es plus à l'envers, cette chanson-là t'aide, on dirait, à faire un retour sur ton parcours. Et là, tu réalises que t'en as fait des choses. Puis la manière que la musique est amenée, puis qu'elle monte au fur et à mesure, elle crée vraiment un sentiment de « je suis quelqu'un, je suis quelque chose ». Donc, c'est une chanson d'estime et de confiance en soi.
On espère que ça fera cet effet chez vous à la maison. On vous la fait écouter pendant quelques instants et on revient tout de suite après cette pause musicale. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full,
I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times.
Alors, on est toujours avec Louis Cournoyer à Bonheur et Vice-Versa et on parle de sa carrière inspirante et chargée. Un conseiller d'orientation qui est engagé. Louis, d'après toi, le conseiller d'orientation en 2019, où est-ce qu'il est rendu dans sa valorisation sociale en tant que profession?
Il est rendu très bon, très compétent. Je tiens à le dire, ça, parce que, tu sais, comme je disais, moi, le fait d'avoir commencé ma formation en 1991, donc au dernier millénaire, ça m'a permis de voir un peu l'évolution des cours, ces choses-là. Quand je regarde ce qu'on forme aujourd'hui, ce qu'on produit comme cours, comme compétences, autant à l'Université Laval, à Sherbrooke, l'UQAM, qui sont en train chacun d'affermir leur créneau et qui sont très intéressants, bien, les conseillers d'orientation qui sortent sont très compétents. Et qu'est-ce qui a évolué? Bien, c'est évidemment les enjeux de santé mentale. Donc, on prend conscience que s'orienter, c'est un traitement d'information sur soi en interaction avec le monde. Donc, conséquemment, bien, la manière dont tu traites l'information, ça va, ton estime, ta confiance, ça va jouer. Ce qu'on remarque aussi, c'est l'essor de la pratique privée, si je vais à ce niveau-là. Et je dirais, moi, un dernier point que je vois de plus en plus, mais qui n'est pas encore présent, mais qui s'installe, c'est vraiment l'orientation plus holistique. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé, par exemple, mes clients à leur demander comment va leur sommeil, comment va leur activité physique.
Oui.
Parce que si un client qui vient de voir, là, puis qui est en déprime, puis qui dort 4 heures par nuit depuis 2 mois, ça se peut-tu que son traitement d'information sur lui-même, puis en regard de son estime par rapport à d'autres choses, ça va jouer? Bien, c'est certain. Donc, il y a tous ces éléments-là d'hygiène de vie qui jouent aussi de self-care. Qui est un peu le mode d'action de l'autocompassion. Fait que il y a ça qui s'installe tranquillement, puis on le voit.
Et l'orientation tout au long de la vie aussi, c'est aussi la thématique de notre ordre.
Oui, puis on pourrait rajouter là-dessus l'orientation au travail des personnes qui prennent leur retraite. Les gens réalisent de plus en plus en arrivant à la retraite que je vais vivre longtemps, j'ai pas beaucoup d'argent, mais il y en a qui ont les chanceux, ils ont un fonds de pension. Je pourrais travailler 2 jours semaine, c'est le fun, là. Je vais choisir ce que je veux faire.
Il y a de plus en plus aussi de retour à l'école et le conseiller d'orientation est un bon moyen de pouvoir s'orienter dans ces transitions-là. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Louis, demain, tu vas être en fait juge au symposium étudiant du CRIVAT.
Oui.
Le symposium étudiant du CRIVAT, en fait, regroupe plein d'étudiants de la discipline du monde de l'orientation, mais aussi plus largement des disciplines, exemple en psychoéducation, en éducation, en relations industrielles. Donc, c'est un symposium qui est quand même très, très large, justement, un peu quasiment holistique. Et il va y avoir plusieurs présentations et toi, tu vas être juge à travers tout ça.
Oui, je vais être juge à travers tout ça. Juste dire, il y a des présentations en anglais également qui
sont
présentes.
Oui, c'est un symposium qui est bilingue cette année.
Ouais.
Et il va y avoir, en fait, plus de 36 présentations étudiantes, 12 ateliers thématiques sur l'éducation et la vie au travail. Si on s'inscrit, on peut avoir avoir droit au dîner, à la pause santé et au 5 à 7. Et il y a 4,5 heures qui sont reconnues pour les professionnels de l'orientation qui vont participer au symposium. Donc, en plus, ça compte dans les heures de formation continue.
Ça va être ça.
Alors, pourquoi pas? Mm-hmm. J'y serai aussi. Je présente ma première présentation par affiche lors de ce symposium. Alors, venez m'encourager. Alors, on va se faire un petit peu de publicité. Et qu'est-ce qui attend Louis Cournoyer au cours de la prochaine année, disons?
Bien, moi, j'ai passé beaucoup de... Ma carrière jusqu'à présent, je travaillais beaucoup sur la prise de décision des jeunes. Et là, dernièrement, je vieillis moi-même. J'ai eu 47 ans. Est-ce que je traverse des choses dans ma vie comme bien des gens? Tu sais, on parlait de s'inspirer de nous-mêmes. Bien, j'ai le goût de travailler sur le sens et le bien-être orientant. Mais plus particulièrement, je me destine vers les adultes de 40 ans et plus qui ont traversé des épreuves de vie. Et je veux savoir, c'est quoi... Je veux remettre en question, c'est quoi les processus, le processus de tout ça. Tu sais, quand on parle du deuil, on a toujours les cinq mêmes étapes. C'est quoi qu'on traverse quand on vit des épreuves de vie et au niveau de l'impact sur la carrière, parce que je suis en orientation. Et honnêtement, bon, je suis entouré de gens qui ont en bas de 40 ans, là, possiblement, mais il n'existe pas un quarantenaire qui n'a pas eu un drame dans sa vie. Mm-hmm. Toutes les quarantenaires ont une histoire. Fait que c'est ça que j'ai le goût de faire. J'ai le goût d'aller faire des entrevues moi-même, d'aller m'asseoir avec des gens. Et c'est comme ça que je vois la deuxième et dernière partie de ma carrière. Là. J'ai le goût d'aller m'asseoir. Enfin, un José Lito de moi-même, mais scientifique.
Et si on veut suivre Louis Cournoyer, on peut aller, j'imagine, sur ta page Facebook et sur le site de l'Université de Montréal.
L'Université de Montréal, on ne parle pas beaucoup de moi, mais à l'UQAM, je suis assez populaire.
Merci beaucoup, Louis. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Et bonne chance dans ta carrière.
Merci.